Bonjour, chers auditeurs de notre radio. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous un chanteur et joueur d'instruments à vent. Il a créé différents ensembles et je ne veux citer que 3-4 parmi ces ensembles. Obsidienne, Amadis, Millenarium. Il est question de Xavier Terrassa, qui est le grand spécialiste des instruments du Moyen-Âge et a enregistré plusieurs CD, dont 6 CD avec l'ensemble d'instruments médiévaux, l'amourache. Donc bonjour Xavier Terrassa, j'ai un grand plaisir de vous accueillir dans notre émission qui sera aujourd'hui consacrée à la musique médiévale et aux troubadours. Nous avons vu ce beau programme avec vous et vous allez nous parler des troubadours et nous introduire dans ce monde des musiciens de la fin du Moyen-Âge ou du Moyen-Âge tout court.
Oui, disons qu'on est en plein cœur du Moyen-Âge. Je précise juste sur la petite présentation que je suis musicien, donc interprète, dans les ensembles Amadis, Obsidienne, que je n'ai pas créé. Moi, j'ai créé un ensemble, une reconstitution de hauts instruments médiévaux, c'est-à-dire les instruments qui sonnent fort, les ancêtres du hautbois, cornemuse, etc., qui s'appelle Joer, voilà. Et puis, depuis des années, j'ai travaillé, parce que là, vous l'avez cité, avec Julien Scovron, avec la morale. Et donc voilà, donc ça fait depuis 18 ans que je parcours les musiques médiévales, vraiment pour le plaisir, avec plaisir. Et aujourd'hui, j'avais effectivement envie de vous parler des troubadours. Les troubadours, c'est la première trace de musique en langue vernaculaire, comme on dit, c'est-à-dire en langue profane, dont on dispose. Et donc à ce titre, évidemment, c'est une nouveauté. Je sais que vous-même, vous êtes spécialiste de tout ce qui concerne le plein chant. Mais bien dans ce tissu et dans cette société où jusqu'à présent ne disposait que des sources liturgiques, eh bien pour la première fois, on va voir apparaître une musique et une poésie, une poésie profane. Voilà, ce sont les troubadours.
Est-ce qu'il y a beaucoup de manuscrits qui nous renseignent sur la notation et les textes qui étaient mis en musique ?
Alors justement, il faut toujours, quand on parle de ces matières, c'est-à-dire en tout cas pour le Moyen-Âge et pour la musique médiévale, évidemment, il faut se référer aux sources. Et évidemment, notre connaissance est liée aux sources. Alors à la fois les manuscrits dont vous parliez. Donc par exemple pour les troubadours, et puis après on va revenir quand même sur les troubadours, évidemment ce que c'est, ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont fait, et la pratique qu'ils pouvaient en avoir, hein, puisque évidemment on n'a jamais aucune certitude en ces matières. Il faut savoir qu'on a retrouvé près de 2700 pièces lyriques, c'est-à-dire donc des poèmes, mais on n'a que 264 mélodies dans les sources. 264 mélodies, vous imaginez que c'est extrêmement faible sur une production qui a duré, on va dire, 2 siècles, hein, c'est-à-dire à partir du 12e siècle. Ça commence à la fin du 11e siècle. L'âge d'or des troubadours, c'est le 12e siècle, et puis ça va s'étioler, ou en tout cas se transformer, et s'éteindre à la fin du 13e siècle. Voilà. Alors après, ça aura beaucoup d'influence sur la monodie et sur la littérature, évidemment dans le Nord avec ce qu'on appelle les trouvères, et puis dans les langues germaniques avec le minnesang, le minnesanger. On va trouver des troubadours en Espagne, on va trouver des trovatore en Italie. Et voilà, donc on est dans ce Moyen-Âge dont on parle nous, c'est-à-dire l'Europe occidentale. Ce sont les premiers et ils vont diffuser donc cette nouvelle lyrique, ce qu'on va appeler la lyrique courtoise, et donc on va peut-être revenir dessus. Je vous propose justement sur les sources et sur le fait que ces sources soient parfois extrêmement ténues. Je précise d'ailleurs que les manuscrits dont on dispose sont tous postérieurs à la création même des œuvres, et la plupart des chansonniers, hein, ils sont regroupés dans des grands chansonniers dont on dispose, eh bien datent du XIIIe siècle. Et donc, parfois, les pièces ont été écrites peut-être un siècle après. Donc, évidemment, ça pose la question de beaucoup de questions.
C'est la tradition orale, comme dans le grégorien. Voilà. En réalité, les mélodies étaient apprises par cœur et se transmettaient de chantre en chantre.
Tout à fait. D'ailleurs, ça pose la question de la notation de la musique, puisque le Moyen-Âge comment dire, sera orale et même jusqu'au XVe siècle, où il y a des techniques polyphoniques très développées, eh bien on reste dans une tradition orale et dans une tradition d'improvisation. Donc c'est toujours la question, et qui est absolument en débat, il n'y a pas de réponse stricte là-dessus, c'est pourquoi note-t-on la musique ? Pourquoi note-t-on la musique liturgique, évidemment, puisqu'on sait que la musique, c'est l'émanation, c'est le son de l'univers, donc c'est le lien directement, c'est la parole de Dieu qui arrive aux hommes. Eh bien, lorsqu'on la note, c'est peut-être une manière, justement, de s'approprier un petit peu Dieu en soi. Et c'est pour ça aussi que les manuscrits, qui sont des objets très longs à mettre en œuvre, qui coûtent excessivement cher et qui sont très rares à l'époque, même si on en a évidemment perdu une grosse partie, c'est pas monnaie courante, chacun n'a pas un manuscrit, on comprend bien au Moyen-Âge, eh bien ce sont des pièces donc excessivement rares et précieuses.
Alors, le grand nombre de pièces lyriques de poèmes s'explique par le fait que le texte ne pouvait pas être, devait être écrit pour bien le retenir, et les mélodies pouvaient très bien se transformer en cours d'application ou d'interprétation.
Oui, ça peut être.
L'absence d'un grand nombre de mélodies ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un grand nombre de mélodies en dehors des 264 que l'on a trouvées.
Bien sûr. Notées. Et puis surtout, sur ces mélodies qu'on a notées, c'est peut-être les meilleures. Il y a des musicologues qui nous disent ça, qui nous disent on a peut-être la chance d'avoir déjà eu une sorte d'écrémage. Et celle qu'on a retenue, c'est celle qu'on a bien voulu avoir. Il faut noter que dans les manuscrits, la notation de la langue troubar, et on va quand même parler de ces troubadours pour savoir qui ils sont et ce qu'ils chantent.
Très bien, faisons un peu d'étymologie aussi.
Voilà, et... Eh bien, souvent, sont dans un occitan qui, effectivement, dont on dit qu'il est corrompu, c'est-à-dire qu'il est, en fait, adapté à la langue qu'il écrit. Donc, on va avoir un occitan francisé, enfin, langue d'ol, etc. Je vous propose, et puis après, on va vraiment rentrer dans le sujet, d'écouter, donc, ce qui est donné pour la première, ce qui est donné, déjà, pour être le premier troubadour, c'est Guillaume IX, le duc d'Aquitaine, le 7e comte de Poitiers. Donc on est à la charnière du 11e et du 12e siècle. Et c'est le premier dont on est à la fois des textes. Et on a 11 poèmes de lui, enfin qui lui sont en tout cas attribués. Et on a, alors au départ on n'a pas de mélodie de lui, seulement dans un mystère postérieur, de 2 siècles je crois, eh bien on trouve une mélodie qui fait référence justement, qui fait référence à Guillaume IX, et on se dit que ça doit être lui. Et après, par un travail de musicologue et de linguiste, on a attribué cette mélodie à un texte dont on disposait, et ce texte c'est Poste des Chantars, et donc vous allez écouter un très bel interprète qui s'appelle Brice Druzit, qui interprète juste à la voix et à la vielle, et vous verrez effectivement qu'à la vielle il improvise totalement, et à la voix, eh bien il propose cette mélodie, mais il la vit complètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une écriture figée, quoi.
Poste des Chantars, mes prestalens. Para un vers d'un sui dolens, mas nun sarai obedient, en peitau ni en imusi. Quera menira en eisin, en gran paur, en gran perivir, in gera lai sara in un fil e far animal si ei vesi lu de partir smesai tan greus del segnurace de peitieus in garda lai sfolcum dengeus tutta la terra è su un così. Si fulcus d'engeus nul secur, el re de qui è utent munur, faran li mal tutti plusur, fer un gascun ne tange vi. Si ven nun essa vis ni prus, can ne userai partizebus, via sauran turnate jus, can nuveiran jove meschi. Merse chieram un compagnum, sacrificor che mun perdun, et eu precen Gesù dertun, et an romans et an latin.
Voilà, donc nous venons d'entendre Brice Druzid qui nous interprétait, ce qui est donné donc pour être la première pièce de Troubadour, du Troubadour Guillaume IX, donc la fin du XIe siècle, donc une chanson qui s'appelle Le Poste des Chantards. Donc nous avons parlé des Troubadours, donc on va dire qui sont ces poètes musiciens hein, qui utilisent une langue que les Catalans ont appelé le Limousin et que les Italiens ont appelé le Provençal, voilà, et qu'on appelle, que les Occitans eux-mêmes appelaient la Romana, voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur langue vernaculaire. Ce qui est assez frappant, c'est que faut savoir que l'Occitan qui est chanté, là, est un Occitan littéraire, c'est-à-dire que c'est un Occitan qui va être unifié sur toute la zone de production, donc on va dire tout le sud de ce qu'est la France actuellement, des troubadours, et que quelle que soit leur langue d'origine, puisqu'ils ont chacun une langue très différente, vous voyez, entre les gens qui vivaient dans les Pyrénées, ceux qui étaient en l'actuelle Provence, etc., et bien pourtant ils chantent la même langue poétique. Voilà. Et ça, on n'a pas de trace avant, donc voilà, ça apparaît avec Guillaume IX. Et c'est très cohérent sur les deux siècles.
C'est pas étonnant. Les récentes recherches linguistiques ont prouvé que les différentes langues romanes n'étaient pas si éloignées que cela, justement autour de l'an 1000, oui. Puisqu'il y a une source commune et ils pouvaient plus facilement se comprendre que les Français ne comprennent aujourd'hui les Espagnols.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Donc, mais c'est très intéressant, effectivement, voir qu'il y a une langue qui leur permet de communiquer dans un même langage.
Et puis, ce qui nous étonne, donc, c'est qu'elle apparaisse et malheureusement qu'on n'ait pas de traces avant. Et donc voilà. Parce que tout au long du Moyen-Âge, on note ce qu'on a envie de noter. Et donc il y a des pans entiers de l'histoire, de la musique, évidemment, auxquels on n'a pas accès. Voilà, par exemple, à la fin de la monodie, on y viendra à l'issue de cet entretien, mais à la fin de la période, enfin du XIIIe siècle, lorsque la polyphonie profane va prendre vraiment le dessus, eh bien on va noter la polyphonie profane, et puis on va absolument arrêter de noter la monodie, en tout cas pour la France, et donc ça nous posera problème. Alors je reviens sur le terme troubar. Troubar, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y en a pas mal de spécialistes qui pensent que ça viendrait de trope. Le trope, c'est un embellissement hein, à la fois musical et à la fois littéraire, à l'origine donc du chant liturgique. Et donc de ce trope, troubar, en tout cas, ça nous a donné le mot trouver. Voilà. C'est pas étonnant, mais enfin voilà, c'est juste
Grégorien,
pour le...
on a aussi les tropes, ce sont des rajouts au kyrielle ou au grégorien qui expliquent le sens
bien
profond
sûr.
Du texte.
Voilà, exactement, et... mais ça vient complètement de là, hein. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, ceux qui estiment que ça viendrait de du mot trope, du chant orné, eh bien, pensent que ça viendrait de là, mais évidemment, le trope, hein, dont ces gens, donc qui sont ces gens, eh bien, pour la plupart, ce sont quand même des aristocrates. Hein, ce sont des gens qui ont accédé à la lecture et puis parfois à la connaissance donc, de la musique et de l'écriture musicale. Voilà. Certains pouvaient être jongleurs. Alors, Je sais, enfin, il faut le rappeler à chaque fois, dans le langage commun, usuel, on dit les troubadours, on les voit se déplacer de château en château, etc. Quelques troubadours, donc ces trouveurs, hein, ce sont vraiment des compositeurs, des poètes-compositeurs, étaient jongleurs eux-mêmes, donc pouvaient se déplacer, mais souvent, ils avaient plutôt un ou deux jongleurs avec eux. Et on raconte que certains, enfin, écrivent que l'hiver, ils composent et que l'été, ils vont sur les chemins de cours en cours, puisqu'on est dans ce début, on est en pleine, évidemment, féodalité, et le système du fief, vous savez, le vassal, le suzerain, il est très important, d'être représenté chez l'un, chez l'autre, etc. Et quand on se déplace pas seul, et on se déplace avec son troubadour. Parfois, les princes eux-mêmes peuvent être troubadours, hein, évidemment, comme Guillaume IX. Et donc, il y a des gens qui sont là pour exécuter la musique, et d'autres l'entendent, et d'autres la transmettent. Et le jongleur au Moyen-Âge, donc qui n'est pas juste celui qui lance des balles, etc., c'est un saltimbanque, c'est un conteur, c'est celui qui, c'est le poste de radio, on va dire, du Moyen-Âge. Et c'est celui qui va répandre cette tradition orale.
On pense toujours aux chansons d'amour quand on parle des troubadours, mais peut-être dans cet esprit-là, ils répondaient aussi des nouvelles.
Alors, ils devaient certainement répondre des nouvelles, et évidemment, les troubadours sont les inventeurs de l'amour. C'est vraiment l'amour, effectivement, comme conception sublimée, puisque juste avant eux, on n'avait pas cet idéal quasi mystique, puisque le mot à l'origine latine, là j'ai pris quelques notes, mais le mot amore qui va donner en picard le terme amour, ça veut dire rut en picard, voyez. Donc l'amour, c'est pas aussi, voyez, une conception aussi sublimée que celle des troubadours. Voilà. Donc ils inventent ce qu'ils appellent le fin amour. Voilà. L'amour humain réel est élevé à la dignité d'un culte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce même amour divin qui sera repris notamment par Gauthier de Coincy, vous savez, quand il fait lorsque toute la période mariale du XIIIe siècle, la grande période du culte à la Vierge, et par exemple à Chartres, on est évidemment très bien placé, enfin, on est en pleine histoire du culte marial, ce sera justement cet amour courtois qui va être repris et qui, la sublimation, là, ira de fait, puisque ça sera une sublimation de croyants, quoi. C'est un amour extatique, donc l'exultation du bonheur d'aimer, l'approfondissement d'aimer, il l'appelle joy, la joie. Voilà, ça on le retrouve souvent.
Le nom de votre ensemble Joer est lié à...
Non, parce que là on est dans la version, merci de la question en tout cas, mais Joer ça veut dire plutôt s'amuser. Alors évidemment on a joué sur les mots justement entre jouer, la musique comme on le dit aujourd'hui, et s'amuser, même si c'est pas le trait de caractère le plus... qui convient le mieux à des ménétriers, puisque ces ménétriers, à différence des jongleurs qui vont de place en place, etc., les ménétriers, eux, sont des musiciens sédentarisés à partir du XIIIe, XIVe siècle, qui sont vraiment des musiciens de cérémonie, quoi, qui sont organisés en bande, etc.
Est-ce qu'on peut imaginer, ou on peut peut-être parler de la position de l'Église par rapport aux trouvères, ils ont peut-être christianisé justement cette joie exprimée par la musique. Donc il y a peut-être deux courants. L'un un peu plus vers le courant plus temporel et l'autre plus vers l'extase spirituelle.
Oui, mais il y a toujours eu, vous savez, saint Augustin, hein, dans les confessions, qui s'émeut parce qu'il dit qu'il pêche en écoutant la musique, même sans le savoir, et ça lui pose de vraies questions. Et il y a une musicologue de Montpellier qui m'a dit l'autre jour que dans un livre suivant, en fait, il revient quand même là-dessus. Mais... au bout du compte, il y a toujours eu cette dualité, c'est-à-dire à la fois de la musique qui est donc cette harmonie des sphères, enfin qui est ce son qui nous vient de la vérité de l'univers, on va dire ça comme ça, et puis à la fois cette musique est une musique qui est une musique aussi de joie, de danse, d'expression corporelle, et donc là effectivement on a un problème. Les troubadours ont été condamnés par l'Église, ne serait-ce que pour la langue profane, et puis parce que voilà, on n'est jamais loin, même si on est dans un amour sublimé, on reste quand même parfois dans des termes excessivement crus. Et justement, je vais vous faire écouter une chanson de Marc Cabru, on est à la fin du XIIe siècle, ça s'appelle « L'autre hier, juste une acébissa ». Et justement, le texte, c'est l'autre jour près d'une haie. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse l'imaginer. C'est interprété par un certain Xavier Terraza. Voilà.
Pastura mestissa de gioia de sen massissa e fon filiade vilena capegunelle pelissa veste camisa treslissa sutarsi causal zelena Vestleis vin per la planissa, tuza fine ure feitissa, dule gran velven che usfissa, senier sudis la vilena, merse Dio e manuerissa, pac mo presil ven merissa, Tale greta sui esena. Fai del chi ken sia, ben conoscenu furia, la vostra parelaria, Senier sudis la vilena, lai un setansi sestia, che talla qui en bailia, tener non ha mai sbifana. Tuza de gentira faire, cavalier su vostre paire, che us engenrete la maire, car fun corteza vilena, un pes vugar mes balaire, e per vostro e mes claire, si fuzet un paucum mena.
Vous aviez écouté la voix de Xavier Terraza, qui est l'invité de ce jour. Il est chanteur instrumentiste et spécialisé dans la lecture des sources et le contrepoint médiéval. Et vous donnez des cours à l'école du vitrail du patrimoine à Chartres. Donc vous avez de très nombreux élèves qui sont très heureux d'apprendre avec vous la musique médiévale. Et aujourd'hui, vous nous parlez des troubadours.
Voilà, oui, on parlait donc de ces troubadours. On a essayé de, enfin, vous a fait écouter effectivement des restitutions possibles, hein, parce que bien entendu, on n'a pas de certitude quant à la prononciation de cette langue, quant à la prosodie, quant aux instruments, hein, puisque le cours que vous citez à Chartres se fait en lien avec l'instrumentarium de Chartres, c'est-à-dire ces instruments reconstitués d'après la sculpture et le vitrail chartrain. Et là aussi, on a le même à la fois la même passion, parce que c'est vraiment passionnant de vouloir refaire vivre cette musique, mais évidemment avec tous les doutes que cela suppose. Mais bon, ça n'est pas un problème d'avoir des doutes, on le fait de toute manière, quoi.
Quel est le point fort de l'époque des troubadours? Parce qu'il va y avoir un déclin.
C'est le 12e siècle, c'est vraiment le 12e siècle, qui est aussi appelé la Renaissance, justement. C'est la Renaissance du 12e siècle, dont on dit, en termes de des historiens, que ça serait né justement grâce à ce qu'a fait Pépin III et ce qu'on fait, et puis Charlemagne à sa suite, c'est-à-dire de à la fois homogénéiser un territoire en termes de langue, en termes d'institution, et que ça, eh bien, trois siècles après, eh bien, ça donne cette possibilité justement d'avoir des expressions artistiques très très fortes. Voilà.
Charlemagne, il a répandu dans tout son royaume, dans tout son empire, le chant grégorien en formant des chantres. Et donc, au XIIe siècle, la musique des troubadours va être bien implantée, bien connue, et avoir ses exécuteurs.
Voilà. Et parce qu'en fait, le terreau est propice. Hein. Il faut savoir évidemment que tous les gens qui apprennent avec les moines, avec les clercs, sont des clercs, et donc ils apprennent évidemment au travers de l'institution religieuse au Moyen Âge. Et donc ils sont tous effectivement ils sont tous formés à ça, on va dire. Voilà. Alors après, justement, c'est le fait que il y a eu cette capacité de former autant de gens qui a fait que les gens aussi pouvaient le recevoir. Enfin, la culture, ça se fait toujours à deux. Il y a celui qui aimait, puis il y a celui qui reçoit. Oui. S'il n'y a personne pour écouter, vous pouvez chanter.
C'est la grande période, le 12e, c'est aussi la grande période des gestes. Donc, on va, à travers la musique, raconter les hauts faits des chevaliers.
Bien sûr.
Et alors, parlez-nous, effectivement, aussi peut-être des cathares.
Oui, on l'associe souvent. Puis, vous savez que dans le sud de la France, il y a beaucoup de régions maintenant qui se revendiquent des cathares. Bon, on n'a pas de traces vraiment probantes de lien entre des troubadours. Les troubadours, ils étaient aussi bien avec ceux qui étaient dans le catharisme que les autres. Et puis, il faut savoir que le catharisme est un épiphénomène, mais comme il y en a eu beaucoup, enfin sur la France, enfin sur l'Europe occidentale à ce moment-là, et comme ça va perdurer jusqu'au protestantisme, c'est un peu la même forme de remise en cause d'une église que eux jugent à ce moment-là dénaturée, et ils aspirent à revenir au texte d'origine, quoi. Voilà, on n'a pas de, enfin voilà, l'image selon laquelle les troubadours seraient les chantres du catharisme,
c'est une image d'Épinal.
C'est très romantique, ouais, voilà. Mais dans le mauvais sens du terme. Donc, voilà. Et après, il faut parler, puisque je crois qu'on va se quitter, il faut parler du déclin. Donc, on va effectivement arriver au XIIIe siècle où ce message, cet amour si pur exprimé, cette poésie si pure, va un peu s'affadir, on va dire. Il y a un linguiste, Pierre Beck, qui pense que cette aventure, évidemment, ne s'est pas éteinte. Déjà, elle s'est transformée dans d'autres formes. Et il y a un historien qui s'appelle Henri-Irénée Maroux qui a une très belle phrase, et on pourra peut-être finir avec ça, qui dit « Un printemps sans été comme un sentiment amoureux adolescent ». Et en fait, et c'est très beau la façon dont il en parle, ça, lorsqu'il écrit son livre, c'est un vieux monsieur qui écrit de ça, et on a l'impression de ça. C'est-à-dire, c'est une adolescence, c'est quelque chose qui a été très 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 brillant et qui ne pouvait pas vivre. Voilà, c'est un sentiment trop, trop pur, et forcément il devait se confronter à la réalité, comme nous on devient certainement adultes. Voilà, un sentiment qui s'éteint dans sa pureté. On écoute un chant interprété par l'ensemble Amadis, et la chanteuse c'est Catherine Jousselin. C'est ce qui est donné pour être le dernier troubadour de l'épopée des troubadours du XIIIe siècle, qui s'appelle Guiraud Riquier, et le titre c'est « Jésus-Christ ».